Le journal Yves Decamps, bonjour Yves.
Bonjour.
Sont-ils allés en zone rouge? Les deux ex-otages français rentrés en France hier ont-ils fait preuve d'inconscience dans leur voyage au Bénin? Et le président de la République a-t-il bien fait d'aller les accueillir? La polémique, lancée notamment par le maire de Toulon, Hubert Falco, se poursuit. Quelle place pour les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie? Les résultats des élections locales seront communiqués dans la journée. 6 mois après leur échec au référendum d'autodétermination, ils espèrent approcher la majorité au Congrès pour mieux négocier le nouveau statut de l'archipel avec Paris. Dans ce journal également, 1 an après le mouvement de blocage des facs, quelle est la situation à quelques jours des premières réponses de Parcoursup? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h dont Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, est l'invitée. Un anniversaire de 70 ans, la fin du blocus de Berlin-Ouest, célébré en grande pompe ce dimanche en Allemagne. La mort du cinéaste Jean-Claude Brissot, il avait notamment révélé Vanessa Paradis au cinéma dans Noce Blanche, c'était en 1989. Et puis peut-être la fin du suspense pour Lille en Ligue 1 de football, les nordistes qui peuvent assurer tout à l'heure définitivement leur 2e place. Fallait pas y aller, c'est une double critique qui monte au lendemain du retour des ex-otages du Burkina Faso, critique qui leur est adressée en priorité à eux deux, partis en touristes dans une zone du nord Bénin réputée dangereuse, mais une critique qui vise aussi le président de la République venu les accueillir sur la base aérienne de Villacoublay, alors même que leur libération a coûté la vie à 2 soldats des forces spéciales. Hubert Falco, le président de l'agglomération toulonnaise où étaient basés les 2 militaires, a dit ne pas s'associer au geste présidentiel, jugé également tout à fait anormal par Thierry Mariani, candidat du Rassemblement National aux Européennes. Il était ce matin l'invité de France Inter.
Parce qu'on a un certain malaise quand on voit le chef de l'État venir à cette cérémonie. Partir en voyage dans un tel territoire est un peu irresponsable, voilà. Et d'autre part, malaise et admiration d'abord aussi, parce que admiration devant, j'allais dire, ce qu'ont fait nos militaires, le sacrifice des 2 militaires qui sont tombés dans cette opération. Et vous savez, notre malaise, il rejoint un peu aussi, pour une fois, les déclarations de monsieur le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui a reconnu qu'il y avait une maladresse et une inconscience à partir dans cette zone. Même dans une zone orange, qu'est-ce qui est conseillé en réalité? C'est si on n'a pas d'impérieuse nécessité d'aller faire du tourisme dans ces zones. L'Afrique, c'est un continent merveilleux, il y a plein d'autres endroits. J'aurais préféré que le président de la République aille au chevet des familles des 2 militaires tombés dans cette opération.
Ce sera fait mardi
aux Invalides. Que accueillir ces 2 personnes qui portent quand même une part de responsabilité.
Thierry Mariani ce matin sur France Inter avec Éric Delvaux en rappelant qu'un hommage national aux 2 soldats, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, sera présidé mardi matin aux Invalides par Emmanuel Macron. Quant au débat sur les zones touristiques dangereuses, un peu, beaucoup ou pas du tout, ce n'est pas si simple que ça. Le ministre des Affaires étrangères avait effectivement lui-même regretté que les 2 Français enlevés par un groupe djihadiste soient allés en zone rouge, mais vérification faite, seule l'extrémité nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso, était en rouge. Établir une carte des degrés de dangerosité, en fait, n'est pas une science exacte, comme l'explique Jean-François Rial, le PDG du tour opérateur Voyageurs du Monde, qui revient sur cette carte du Bénin au téléphone de Marie-Pierre Véraud.
À ce moment-là, la carte indiquait que le parc en question était globalement jaune, avec une petite bande orange au nord à la frontière burkinabè, et une extrême fine bande rouge, donc totalement déconseillée, sur la frontière elle-même. Donc on n'était pas comme sur la carte actuelle où tout le parc est devenu complètement rouge après l'enlèvement, plusieurs jours après l'enlèvement. Et au mois de décembre, il faut avoir conscience que cette carte-là était également différente parce qu'elle était totalement jaune. Donc vous voyez que tout ça est complexe. C'est pour ça qu'on raconte beaucoup de choses aujourd'hui sur cette affaire qui sont pas tout à fait exactes, parce que les choses évoluent, les choses sont subtiles. D'ailleurs, les ministères entre eux, les affaires étrangères britanniques, allemands, américains, suisses, français, n'ont pas tous la même petite perception des risques selon chacune des cartes. Et nous, on se fie également aux avis des autres pays parce que parfois, ils sont plus pertinents que ceux des Français. Il peut nous arriver de programmer des zones oranges, comme le fait Terre d'Aventure dans le nord du Soudan. Mais c'est parce que les Anglais, qui sont très très performants sur ces sujets-là, considèrent que cette zone n'est pas un problème, qu'elle est verte. Moi-même, j'y ai circulé il y a 1 mois. C'est la zone archéologique pharaonique. Il ne pose aucun problème. Par contre, on n'irait pas mettre les pieds au Darfour, vous voyez. Tout ça, c'est du bon sens.
Les cartes disponibles sur le site du Quai d'Orsay sont actualisées en permanence pour tenir compte des événements. À ce jour, par exemple, seul en Afrique, le Maroc et une partie de l'Algérie sont coloriés en vert. En Nouvelle-Calédonie, on devrait connaître dans la journée les résultats définitifs d'une élection importante aujourd'hui. Le renouvellement du Congrès, l'Assemblée provinciale, dont les 76 conseillers sont élus pour 5 ans. 6 mois après avoir rejeté par référendum l'indépendance de l'archipel, les Calédoniens vont devoir négocier avec Paris le nouveau statut du territoire, d'où l'importance de ce scrutin, auquel la participation a été bonne, à près de 60%, mais beaucoup moindre qu'au référendum. Sarah Maquet à Nouméa.
Avec un taux de 58% à 17h ici, nous sommes très loin des plus de 80% de participation enregistrée lors du référendum sur l'indépendance il y a 6 mois. Pourtant, ce nouveau gouvernement aura de lourdes responsabilités, notamment organiser les 2 prochains référendums sur l'indépendance prévus par l'accord de Nouméa au plus tard en 2020 et 2022. Le nouveau gouvernement aura aussi à négocier de nouvelles institutions avec la France, sortie de l'accord de Nouméa oblige. Le camp indépendantiste espérait ce dimanche de bons résultats, toujours suite au référendum, car si le non à l'indépendance l'avait emporté il y a 6 mois, le oui avait alors réalisé un score inattendu. Dans le gouvernement sortant, les indépendantistes ne sont qu'à 2 voix du camp non-indépendantiste, la droite loyaliste. Mais selon les premiers résultats ici, les indépendantistes ne devraient pas parvenir à renverser la dynamique politique des 20 dernières années et le Congrès devrait rester loyaliste. Il devrait même passer d'une majorité de droite modérée avec le Parti Calédonie Ensemble à une droite plus ferme, celle de la coalition L'Avenir en Confiance, un regroupement de 3 partis de droite proches des Républicains.
Sarah Maquet à Nouméa.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decan.
C'était il y a 1 an, la loi orientation et réussite des étudiants entraînait un mouvement de blocage dans les universités. De nombreux sites étaient occupés par les étudiants, protestant notamment contre la nouvelle plateforme d'accès à l'université Parcoursup, accusée d'organiser une sélection qui ne dit pas son nom. 1 an après d'ailleurs, le débat n'est pas tranché. La première année de Parcoursup, sans convaincre totalement, n'a pas entraîné de catastrophe. Des ajustements ont été apportés au système, dont on pourra juger l'efficacité dans quelques jours à partir du 15 mai, quand arriveront les premières réponses aux vœux formulés par les lycéens. On va y revenir. Ce que voulaient aussi les étudiants de façon générale, c'est un changement de gouvernance des facs. Ce que certaines ont expérimenté en lançant des budgets participatifs, comme ici à Nanterre, où les 30 000 étudiants peuvent faire des propositions en ligne. C'est un reportage de Guillaume Fariol.
Impliquer plus les étudiants pour renouer le dialogue, cela semble évident. Et pourtant, Jean-François Balaudet, président de l'université de Nanterre, ne le cache pas.
C'est pas dans la culture des universités. Il y a très peu d'universités encore qui se sont lancées dans cette démarche. J'ai le sentiment que ça manquait. Ça peut fédérer, ça peut faire du lien. La perspective d'avoir une belle idée qui, dans 1 an, va devenir une réalité, c'est assez stimulant.
Avec ce budget participatif, les étudiants peuvent proposer des améliorations du campus, équipements ou infrastructures. Enveloppe totale 50 000 euros. Les demandes de Florian Mazet, président de l'UNEF Nanterre, sont élémentaires.
Table, chaise, lieu de restauration avec un micro-ondes. Effectivement, ce n'est pas dans tous les bâtiments qu'il y a ça. Mais c'est là où est la force du budget participatif, c'est qu'elle donne la possibilité aux gens qui ont des idées de pouvoir les mettre en place.
Mais certains sont beaucoup plus critiques sur ce budget participatif.
On ne va pas se réjouir, pour moi c'est juste normal.
Ça fait un peu, bon, tenez, prenez 50 000 euros, on va faire des petits budgets participatifs, c'est sympa, mais le fonctionnement général de la structure ne va pas changer.
On a le doute que ce soit un écran de fumée qui masque un plus grand problème de discussion entre la présidence et les étudiants.
Tout ça, ce n'est qu'une opération séduction un peu hypocrite, tranche une autre étudiante dépitée.
Une dizaine d'universités ont lancé leur budget participatif, dont la première à Tours en 2017, avant même les grèves de l'année dernière. Invitée de ce droit de suite, Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, 2e syndicat étudiant, bonjour.
Bonjour.
Alors un mot d'abord sur cette démocratie participative à l'université, c'est un gadget ou une expérience intéressante pour vous ?
C'est une expérience intéressante, c'est toujours intéressant de permettre aux étudiants de donner leur avis. Par contre, bien sûr, il faut continuer et aller plus loin, et pas s'arrêter uniquement à un budget participatif, mais aussi laisser plus de place dans les conseils qui décident du budget de manière globale aux étudiants.
Alors dans quelques jours arriveront les premières réponses sur Parcoursup, hein, dont la première année, je le disais, n'a pas été la catastrophe que vous redoutiez. En tout cas, du point de vue des étudiants et des vœux qu'ils avaient formulés, on on est sur les chiffres de satisfaction de l'année précédente?
Peut-être en chiffre de satisfaction. En tout cas, nous, le bilan conclure, il est loin d'être positif puisqu'on avait près de 120 000 personnes qui se sont retrouvées sans proposition définitive d'inscription au 5 septembre. C'était les chiffres qui étaient annoncés par le ministère. Et donc, on s'est retrouvés avec de nombreux étudiants qui n'ont pas été inscrits dans la filière de leur choix ou qui n'ont pas eu de place du tout. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude pour l'année qui arrive, puisqu'on a aussi des étudiants qui viennent nous voir et qui ont candidaté l'année dernière sur Parcoursup, n'ont pas eu leur vœu et qui la recandidatent cette année et donc espèrent avoir de bons résultats le 15 mai.
Alors justement, le calendrier a été resserré, les délais de réponse raccourcis, ce qui devrait permettre de libérer plus rapidement les places refusées pour les candidats en attente.
Alors oui, le calendrier a été raccourci. Pour nous, on préfère bien sûr que les étudiants aient des réponses en juillet plutôt que début septembre. Par contre, il y a aussi eu d'autres modifications. Notamment, il y a eu un raccourcissement des délais de réponse, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de chances qu'un étudiant loupe une proposition d'inscription. Et ça, c'est loin d'être positif.
Pour les nous, étudiants ont 5 jours, hein, c'est ça, 5 jours pour répondre à partir du 15 mai.
À partir du 15 mai, mais après ça se raccourcit, ça passe à 3 jours et après on a une période où c'est 24 heures pour répondre. Donc pour nous le réel problème, il est surtout dans le manque de places. Au-delà de raccourcir les délais, ce qu'il faut faire c'est créer des places dans nos universités. 120 000 personnes l'année dernière, ça ne va pas aller en s'arrangeant si on ne crée pas de places. Cette année on a encore une augmentation du nombre d'étudiants et une augmentation du nombre de vœux. Donc on est très inquiet quand même.
Mais étudier les dossiers des candidats, c'est un petit peu le principe maintenant, hein, les facs étudient les dossiers, c'est pour leur éviter d'aller dans le mur, c'est en tout cas la façon dont la ministre Frédérique Vidal a expliqué la chose, hein, pour aller contre ce taux d'échec de 60% qui subsiste en première année.
Mais pour aller contre le taux d'échec, pour nous, l'important, c'est pas d'imposer aux étudiants une filière qu'ils n'ont pas choisie, parce que c'est encore plus compliqué de réussir dans une filière qu'on n'a pas choisie, mais plus d'investir sur la pédagogie, sur la formation, pour qu'on ait assez d'enseignants en face de nous pour avoir des cours en petits groupes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pédagogiquement dans nos universités, qui sont expérimentées à l'étranger et qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, le bilan de cette année nous montre aussi, on a beaucoup, beaucoup de demandes de réorientation, comme je le disais.
Alors un mot sur la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Là non plus, ce n'a pas été la catastrophe annoncée. Hein, leur nombre n'a pas vraiment baissé, moins 2,5% seulement d'inscriptions.
Alors bon, moi je commenterai pas les chiffres puisqu'on a de nombreux chiffres différents qui remontent des universités. Certaines universités qui annoncent des baisses bien plus importantes à plus de 50% des candidatures. On n'a pas de chiffres qui sont pour nous précis et qui nous permettent de commenter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'augmentation des frais d'inscription, elle acte aussi le fait qu'on sélectionne, on trie maintenant sur le porte-monnaie des étudiants, ceux qui vont pouvoir faire des études. Ça n'a jamais été le modèle français. Aujourd'hui, dans nos universités, on va dire que deux étudiants qui sont côte à côte dans l'ANSI, ne payent pas les mêmes frais parce que certains sont étrangers, d'autres sont français. Et ça, pour nous, c'est inadmissible.
Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, merci beaucoup d'avoir été l'invitée de notre droit de suite. À Berlin, c'est un événement de 70 ans que célèbrent aujourd'hui les Allemands, l'anniversaire du pont aérien de 1949 qui avait mis fin au blocus soviétique sur la partie ouest de la capitale allemande. Un blocus de presque un an qui put être déjoué par un ravitaillement aérien des forces américano-britanniques et de la population. Tempelhof, l'aéroport du centre-ville où se posait un avion toutes les 3 minutes à peu près, a été fermé et reconverti en immense terrain de jeu. C'est aujourd'hui le plus grand parc urbain du monde, 355 hectares, plus grand que Central Park à New York, David Philippot.
Sur le tarmac de l'ancien aéroport, un avion C-54 gris métallisé rappelle la glorieuse histoire du pont aérien. Au rythme d'un atterrissage toutes les 3 minutes, les avions américains et britanniques ont ravitaillé la partie ouest de la capitale allemande, la nourriture et le charbon avec lequel se chauffaient les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest, constituaient l'essentiel des cargaisons. C'est sur ce tarmac que 50 000 personnes sont attendues cet après-midi pour des conférences d'historiens, avec des expositions audio et vidéo organisées dans 2 anciens hangars, une partie musique aussi avec le jazz band de l'US Air Force. Mais le héros de la cérémonie sera Geir Halvorsen, à 98 ans. Cet ancien pilote revient à Berlin, c'est une célébrité ici. C'est lui qui, le premier, avait eu l'idée des parachutages de bonbons et chewing-gum à destination des petits Berlinois qui assistaient au ballet des atterrissages décollage. Entre juin 48 et mai 49, les avions qui décollaient de Francfort ont acheminé 2 tonnes de marchandises. Les soviétiques ont fini par lever le blocus. La fête organisée cet après-midi à Tempelhof, c'est celle de la liberté. Berlin, David Philippot pour France Inter.
La mort de Jean-Claude Brissot, le cinéaste de Noce Blanche, est mort hier à Paris à 74 ans, auteur d'une douzaine de films, dont également De bruit et de fureur, ou plus récemment, en 2012, La fille de nulle part, Léopard d'or au festival de Locarno. Il avait fait de Bruno Kremer son acteur fétiche et révélé la jeune Vanessa Paradis au cinéma dans Noce Blanche, justement son plus gros succès, c'était en 89. Il avait expliqué de nombreuses années plus tard sur France Inter comment il avait fait travailler la jeune débutante.
Pendant tout le film, on doit se demander, j'y vais à gros traits, hein, si c'est une gentille ou c'est une salope. Et à la toute fin, on s'aperçoit que peut-être, probablement, elle était sincère. Mais il faut, pour que ça passe, que ce soit vraisemblable. Et du même coup, il fallait que le jeu de Vanessa Paradis soit bien maîtrisé. Parce que si elle avait joué, disons, comme Adjani, on se serait dit, c'est une comédienne qui sait très bien ce qu'elle fait. Alors, on avait déjà travaillé pendant une semaine... parce qu'elle a été choisie très tard, mais moi je lui demandais systématiquement de se remémorer et de me raconter une scène qui se rapprochait de ce qu'elle avait vécu dans la vie. Et au bout d'un certain temps, elle m'a dit, mais j'en ai marre, tu me fais raconter ma vie, et Kremer lui a dit, tu vois pas qu'il te fait répéter d'une autre manière.
Mademoiselle Tessier.
Mathilde, monsieur, s'il vous plaît. J'aime pas qu'on m'appelle par mon nom de famille.
Vous avez trois quarts d'heure de retard. Et encore, si je me trompe.
Voilà, Vanessa Paradis dans Noce Blanche de Jean-Claude Brissot, le cinéaste qui a eu aussi sa part d'ombre, condamné dans les années 2000 pour harcèlement et agression sexuelle. Il avait été rattrapé par le mouvement MeToo et la Cinémathèque avait annulé fin 2017 une rétrospective qu'elle devait lui consacrer. Allez, c'est une petite révolution pour les femmes de 10 à 99 ans et plus. Une culotte en coton multiservice qui fait office également de protection utile en cas d'incontinence comme en période de règles, la culotte du en même temps, en quelque sorte. C'est une nouvelle marque que vient de lancer une jeune Rouennaise de 25 ans, Chonéade d'Aigremont, lingerie menstruelle écologiste appelée Petite Culottée au pluriel, Coralie Moreau.
C'est une jolie petite culotte ornée de dentelles, mais une culotte révolutionnaire. Grâce à elle, finit les protections hygiéniques ou urinaires, un concept mis au point par Chonéade après 5 ans de recherche.
C'est vraiment une nouvelle technologie qui permet de combattre les protections intimes jetables, qui sont du coup nocives pour le corps et qui ne sont pas forcément géniales pour la planète.
Cerise sur le gâteau, cette lingerie est bio et 100% française.
Tout est en fait fait en France. À l'intérieur, nous avons en fait des produits absorbants et imperméables, qui sont également eux certifiés. Le coton est Ocotex 100 et on a la culotte qui est ornée de dentelles de Calais.
Testée sur des femmes de tous âges et de nombreuses sportives, la culotte petite culottée est aussi et surtout très fiable et confortable, promet Chonéade.
C'est une lingerie qu'on utilise toute la journée, donc on peut l'utiliser jusqu'à 12 heures. Les tangas, du coup, c'est 1 à 2 tampons. Et les culottes sont 3 à 4 tampons.
Dernier avantage, cette lingerie est aussi résistante que les autres et comme les autres, elle passe en machine avec le reste du linge. Les culottes existent de la taille 12-14 ans au 48 pour environ 45 euros.
Voilà, bio et français, culottes en vente sur le site de la marque. En Ligue 1 de football, qui sur le podium en fin de saison avec Paris, Lille probablement et Lyon peut-être, mais tout n'est pas complètement bouclé, surtout pour les Lyonnais qui jouent gros ce soir à Marseille quand les nordistes devront assurer le résultat face à Bordeaux. C'est Gric Guillou.
Avec 6 points d'avance et un goal average nettement favorable par rapport à l'Olympique Lyonnais 3e, Lille verrouillerait en cas de victoire contre Bordeaux cet après-midi une deuxième place que sa saison mérite largement. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC.
Je leur ai dit cette semaine qu'ils tenaient quelque chose et que les seules personnes qui peuvent leur prendre quelque chose, c'est eux-mêmes. Si mes joueurs, mon groupe est autant concentré et déterminé, personne ne viendra leur prendre quelque chose.
Et surtout plus les Lyonnais, incapables de battre ces mêmes Lillois la semaine dernière et dont la deuxième place n'est plus la priorité de cette fin de saison. L'OL veut rester sur le podium de la Ligue 1, maintenir Saint-Etienne 4e à distance afin de décrocher le tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'OL se rendra donc ce soir à Marseille avec l'objectif de creuser un peu plus l'écart sur les Verts, 4e, des Verts battus vendredi soir en match avancé par Montpellier. L'entraîneur lyonnais, Bruno Genesio.
C'est sûr que si on avait le bonheur de s'imposer et de prendre 4 points d'avance sur Saint-Etienne à 2 journées de la fin, on pourrait voir les choses avec beaucoup d'optimisme.
Coup d'envoi de Lille-Bordeaux à 17h, Marseille-Lyon clôturera cette 36e journée ce soir à 21h.
Autre match au programme ce dimanche, le derby breton, Rennes-Guingamp à 15h. Et en rugby, à ce propos, y aura-t-il un club breton dans le top 14? On en est encore loin, mais tout est encore possible pour le RC Vannes, qui reçoit tout à l'heure Mont-de-Marsan en match de barrage. C'est une première pour Vannes à ce niveau-là. Les Morbihanais ne sont que depuis 3 ans en Pro D2. Et s'ils battent Mont-de-Marsan, ils devront encore affronter Brive en demi-finale avant la finale des barrages. It's a long way, comme disent les grands bretons.